le dimanche 5 mai. Bienvenue sur France Bleu Armorique, il est 9h. Les informations, c'est avec vous, Colline Mollard. Le quartier du Blon à Rennes veut tourner la page.
Et mettre de côté la violence liée au trafic de drogue. Près de 2 mois après la fusillade, faisant 2 blessés, dont 1 grave sur la place du Bana, l'association Avenir organisait hier un repas solidaire avec les habitants. Un food truck a été installé avec nourriture et boissons offertes, des animations aussi pour les enfants. Une parenthèse festive qui fait du bien au quartier, Corentin Vahut.
Depuis la fusillade du 10 mars, la vie n'est plus tout à fait la même pour les habitants du quartier comme Fatima, maman de 3 enfants.
Oui, ça nous fait peur jusqu'à maintenant que ça se reproduise. On n'a pas confiance à laisser nos enfants sortir dehors, surtout à les laisser jouer au parc. Ils profitent de rien à cause de tout ça.
Alors ce repas solidaire, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour Moussa. Il habite au Blon depuis 22 ans.
Ça fait longtemps qu'on a besoin de quelque chose de comme ça. Ça fait très bien pour nous parce qu'on sort.
Cet événement, c'est avant tout un acte de solidarité, estime Khalid, membre de l'association Avenir.
On ne pouvait pas rester, nous, insensibles au drame, en tout cas, que les habitants ont pu vivre. Et l'idée, c'est aussi de leur témoigner une solidarité et aussi de montrer qu'il y avait de la vie aussi, qu'il y avait des choses positives dans ce quartier, en fait.
Et tant pis, si ça ne révolutionne pas les choses tout de suite, explique Grégory, un autre membre de l'organisation.
Peut-être qu'on va juste passer un repas et qu'il ne se passera rien derrière. Mais si, durant la soirée, il y a des bonnes volontés, des gens qui prennent la parole et qui veulent mettre des choses en place, on va les accompagner là-dessus. Ouais.
Le principal, conclut-il, c'est aussi de réoccuper l'espace pour faire en sorte que les habitants du Blon se réapproprient petit à petit leur quartier.
Des témoignages à retrouver sur francebleu.fr.
Une reconstitution judiciaire commence en ce moment à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.
À l'endroit exact où le jeune Naël, 17 ans, est mort il y a près d'un an au volant de sa voiture après un tir policier. La reconstitution devrait durer plusieurs heures en présence des personnes impliquées dans ce dossier. Le fonctionnaire de police en question est mis en examen depuis bientôt 1 an pour homicide volontaire. Une voiture et un scooter se sont percutés à Bubry dans le Morbihan dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur du deux roues, 19 ans, est gravement blessé à la jambe. Il a été transporté à l'hôpital de Lorient. Le conducteur de la voiture n'est lui pas blessé.
Les Juifs français vivent dans la peur.
Ils sont plus victimes d'antisémitisme qu'avant, c'est ce que dévoile une vaste enquête réalisée par l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Depuis le 7 octobre dernier, jour de l'attaque d'Israël par le Hamas, les actes anti-juifs se sont banalisés en France. Et depuis, Juliette Gloria, les Juifs français ne se sentent plus en sécurité.
D'après cette enquête, l'écrasante majorité des Français juifs vit dans la peur depuis maintenant 7 mois. Moqueries, insultes, agressions physiques, 86% d'entre eux affirment craindre davantage d'être victimes d'agressions antisémites depuis le 7 octobre. Alors pour se protéger, beaucoup décident de modifier leur comportement. Par exemple, la moitié a arrêté de porter des signes religieux dans les espaces publics. Au niveau de leur déplacement aussi, un tiers prend moins, voire plus du tout le taxi. 20% ont retiré leur mezouza, ce petit rouleau avec des passages bibliques que les juifs accrochent à la porte de leur maison, et ils sont autant à prendre des précautions sur internet, notamment en utilisant des boucles de messagerie privée. 18% vont même jusqu'à modifier leur nom de famille sur les applications de livraison comme Deliveroo ou Amazon. Enfin, ils sont aussi très prudents sur les réseaux sociaux qu'ils considèrent comme dangereux pour 54% des juifs français, notamment à cause de l'augmentation des contenus antisémites depuis le 7 octobre.
500 000 juifs vivent en France, c'est la plus forte communauté juive d'Europe. Le président chinois Xi Jinping arrive aujourd'hui à Paris pour une visite de 2 jours. Au menu des discussions avec Emmanuel Macron, les échanges commerciaux et la recherche d'une résolution de la guerre en Ukraine face à un président chinois qui continue d'afficher son soutien à la Russie. C'est la 2e fois que le président chinois vient en France sous la présidence d'Emmanuel Macron.
Contre toute attente, le Stade Rennais a renversé le match.
Une semaine après la défaite face à Brest, cette fois les Rouges et Noirs se sont imposés dans le temps additionnel à Metz, 3-2 hier soir. Rennes pourtant menée jusqu'à la 70e minute avec encore 2 énormes erreurs défensives sur les buts adverses. Mais ce succès montre que l'équipe ne lâche pas son espoir européen. Le coach Julien Stéphan.
C'est la première fois de la saison qu'on arrive à renverser un match, je dirais, en égalité numérique, puisque clairement c'était arrivé en supériorité numérique pendant toute une mi-temps. On est surtout malheureux d'arriver à la mi-temps à 1-2. On a, je crois, mis 26 ballons dans la surface adverse, on en a concédé qu'un seul et il marque 2 buts sur ça. Je crois que la première mi-temps était de bonne facture, fait des bons mouvements, une bonne maîtrise. Après, il nous a manqué un peu d'agressivité, je trouve, dans la surface pour finaliser certaines choses. Oui, but était certainement évitable, mais ce que je constate aussi, je vous l'avais dit, c'est que le groupe ne lâche pas, c'est que les entrants ont aussi été impactants, et ça c'est une bonne chose, une très bonne chose. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont on a marqué le troisième but sur une action très verticale, avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'engagement. Il fallait réussir ce que Lens n'avait pas réussi il y a trois semaines, parce qu'ils étaient menés 2-1 aussi à la mi-temps, ils n'avaient pas réussi à renverser le match. Voilà, les joueurs l'ont fait, donc bravo à eux pour ça.
Rennes est désormais 7e du classement, provisoirement, avant les matchs de Lyon demain à Lille et de Marseille, reporté à cause de la demi-finale d'Europa League jeudi dernier. Sur The Transat, la course de voile en solitaire partie dimanche dernier de Lorient vers New York, Johan Richomme est toujours en tête dans la catégorie IMOCA. Pour les classes 40, c'est désormais l'Italien Ambrogio Beccaria qui mène la danse dans un trio de tête avec notamment Jan Lipinski.
Et reconstituer le bateau de Jacques Cartier.
C'est le projet fou de deux frères originaires de Saint-Malo pour 2034, soit 500 ans après la découverte du Canada par l'explorateur malouin en 1534. Grieg et Dual Guyon veulent refaire le parcours. Pour ça, ils tentent de mobiliser les fans de vieux matériel marin, les historiens, entreprises et élus pour boucler un budget de 3,3 millions d'euros. Il faudra 3 ans pour construire le navire dont on ne connaît rien puisque les plans ont été perdus. Il n'y a aucune trace dans les archives. Alors, il faut chercher ailleurs pour Tuc Dual, l'un des deux frères.
Pour essayer de reconstituer le plus fidèlement ce navire, nous nous basons d'abord sur les récits de voyage de Jacques Cartier, qui nous donne l'indication selon laquelle les navires avec lesquels il est parti en 1534 étaient des navires de 60 tonneaux, ce qui nous donne simplement une idée du volume du navire. À l'époque, Saint-Malo était un grand port morutier, et donc on considère à 99% que les bateaux avec lesquels Jacques Cartier était parti sont des navires morutiers qui ont été transformés en navires d'exploration et de grande navigation.
Des bateaux de quelle longueur ?
Alors celui-ci était un petit bateau puisque on pense qu'il faisait une vingtaine de mètres. On est dans des petits bateaux de pêche, mais qui étaient robustes et résistants et qui allaient quand même vite puisque Jacques Cartier a effectué le voyage en 3 semaines.
Yeah.